France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Pour l'heure, on retrouve l'invité des matins, le professeur d'études africaines à l'université de Duke aux États-Unis, ancien journaliste américain francophone passé par Libé puis Le Monde, Stephen Smith, prix du livre de géopolitique pour la ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. C'est paru chez Grasset. Le président Emmanuel Macron entame aujourd'hui, Stephen Smith, une nouvelle tournée africaine. Catherine Dutu l'évoquait. Après la Mauritanie où se tient le sommet de l'Union africaine, il se rendra au Nigeria. Il y sera beaucoup question de sécurité et des migrants, un peu d'aide au développement. Et pourtant, Stephen Smith, ce projet Alliance pour le Sahel qui avait été lancé à l'été dernier avec des projets qui misaient sur la jeunesse, éducation, emploi, semble un peu mis de côté aujourd'hui. Et on a envie de dire une fois encore, comment accompagner ce que vous pronostiquez, c'est-à-dire l'essor démographique de l'Afrique?
Je pense que c'est difficile à accompagner dans le sens qu'il faut prendre la mesure de la disparité démographique. Il y a 500 millions d'Européens, en face il y a déjà 1,3 milliard d'Africains. En 30 ans, il y aura 2,5 milliards, donc 5 fois plus d'Africains que d'Européens. Donc il faut arrêter de penser qu'on puisse financer en quelque sorte à partir de l'Europe le développement de l'Afrique.
Il ne faut pas aider alors.
On peut aider bien sûr, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va transformer l'Afrique, qu'on va révolutionner l'éducation en Afrique. C'est absolument plus possible. La France pouvait intervenir en Côte d'Ivoire lorsque la Côte d'Ivoire comptait 3 millions d'habitants en 1960. Aujourd'hui, avec 25 millions d'habitants, c'est déjà une autre affaire. Et à l'échelle africaine, c'est impossible. Tout à l'heure, le général parlait de l'immensité du Sahel. C'est à peu près la surface des États-Unis, rien que le Sahel. Donc, vouloir intervenir même avec des milliers de soldats dans un tel espace, c'est très très difficile. Et d'autre part, il y a toujours l'inconvénient que l'adversaire, en l'occurrence c'est l'ennemi terroriste, il va voir l'occidental derrière son adversaire local. Et donc c'est une force de mobilisation de dire il y a là les occidentaux, en Afrique on dit facilement les blancs, qui interviennent chez nous, qui ne resteront pas et qui luttent, et on essaie de comprendre pourquoi. Et comme l'Occident n'est pas très très populaire, là où il signifie souvent corruption, en quelque sorte un mode de vie qui est rejeté localement, nous prêtons la cible aux forces locales qui sont d'autant plus féroces qu'il y a une présence occidentale. Donc, en même temps,
ça c'est pour les interventions militaires, pardon Stéphane Smith, ou ce qui peut être considéré comme une ingérence pour ce qui est de la culture, ce qui
même
est de l'éducation.
Même l'éducation, Boko Haram au Nigeria veut dire l'éducation occidentale est interdite aux musulmans. Donc si l'idée c'est bien que le mode de vie occidental est rejeté, pas seulement sur le plan militaire, mais comme modèle culturel. C'est une dépravation aux yeux de beaucoup de musulmans. C'est la corruption qui les entoure et on peut les comprendre dans une certaine mesure. Quand tout se vend et tout s'achète et on pense que ça, c'est la modernité qui a été emmenée par l'Occident, il y a un rejet. Et donc, à la fois, il faut aider, il faut être présent, il faut soutenir les alliés et en même temps, quand on le fait, on s'expose parce qu'on se promène comme une cible au Sahel ou ailleurs en Afrique.
Mais si on n'accompagne pas, puisque le terme vous chatouille, ce décollage de l'Afrique.
Mais est-ce qu'on accompagne réellement? Dès que vous mettez des forces occidentales quelque part, compte tenu de la disparité des forces, vous n'accompagnez pas, mais vous donnez le rythme, vous donnez des ordres de marche. Et c'est bien perçu comme ça. Donc nous disons c'est l'appui à la force institutionnelle locale, mais tout ça c'est des mots. En réalité, c'est les Blancs qui viennent, et là il y a une tradition coloniale, les Blancs qui viennent et qui commandent, et qui disent dans quelle direction il faut marcher. Et c'est ressenti localement comme ça et aboutit à des phénomènes de rejet.
J'en étais revenu à l'aide au développement, hein, plutôt sur ce terme d'accompagnement aussi. Si d'un côté donc on n'accompagne pas économiquement l'Afrique, qui est un continent qui est en train aussi d'émerger, dont vous avez décrit cette jeunesse qui est en pleine expansion aussi démographiquement et qui pourrait, selon vous, avoir envie de rejoindre l'Eldorado européen, et que face à cela, on se met dans une position ici en Europe défensive, c'est-à-dire de refermer aussi les frontières et non pas dans une position plus ouverte d'accueil, d'hospitalité, comme beaucoup appellent de leur vœu. Qu'est-ce qui va se passer?
Mais l'hospitalité, c'est un mot un peu bizarre, puisque quand vous avez en face de vous 5 fois plus le nombre, vous devez quand même vous poser la question ce que l'hospitalité veut dire. Qu'on ouvre les portes à ceux qui fuient un danger imminent, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas se discuter.
Donc, il faut accueillir les bateaux en ce moment?
Mais c'est Ce n'est pas les gens qui sont sur les bateaux, c'est des migrants économiques, pour la plupart d'entre eux. Ils viennent de Côte d'Ivoire, ils viennent du Ghana, ils viennent du Nigeria, ils viennent du Sénégal. Ce ne sont pas les pays en crise, ce sont les pays qui sont sur le seuil de prospérité. C'est exactement ce que j'essaye de faire passer comme message. Les gens qui viennent, dans leur vaste majorité, je ne parle pas des gens qui fuient une dictature en Érythrée ou le Sud-Soudan, mais ils sont minoritaires. La plupart des gens qui viennent, viennent à la recherche d'une meilleure vie. On ne va pas le leur reprocher, mais on ne va pas non plus reprocher à l'Europe de se demander combien de personnes qui cherchent une meilleure vie peuvent vivre parmi nous. C'est une question légitime. Ce n'est pas une question entre une morale politique d'un côté, l'hospitalité, c'est un joli mot, mais après tout, comment vous transformez quelqu'un qui vient d'une autre culture en concitoyen? Ça ne se fait pas sans difficulté. On a plusieurs générations pour l'avoir appris. Et donc, on ne peut pas le nier. Qui va faire ce travail? Et donc, on ne peut pas dire, on va ouvrir les portes parce que ça nous donne un narcissisme humanitaire. Nous sommes contents de nous-mêmes et qui par la suite va faire le travail?
Ce n'est pas qu'une affaire de morale ni de philanthropie, comme le rappelait récemment la juriste Mireille Delmas-Marty dans une tribune au Monde. C'est aussi une affaire de gouvernance mondiale qu'il faut peut-être aujourd'hui envisager. Vos scénarios sont quand même très ouverts pour l'avenir. Cette question migratoire est loin de s'éteindre, même si vous venez de l'évoquer. La crise, il n'y a pas de crise migratoire aujourd'hui, il n'y a pas de ruée vers l'Europe, contrairement à ce que certaines voix laissent entendre. Il va falloir aborder cette question d'une manière ou d'une autre.
Mais il y aura une ruée, ça c'est inévitable, compte tenu des tendances démographiques, donc il va bien falloir se préparer pour cela.
Alors comment, et d'autre part, comment on l'anticipe?
Mais on l'anticipe d'abord en faisant face, on est en train de faire le contraire de ça. Nous disons, parce que nous sommes revenus vers les chiffres antérieurs à la grande crise de 2015, il ne se passe rien, la crise est finie et donc il n'y aura pas de ruée. Je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de se préparer à cette ruée qui va venir. D'autre part, la gouvernance démographique, la globalisation, la mondialisation s'accompagne là où elle est forte, de beaucoup de voyages, mais de très peu de migration, dans le sens de vouloir s'installer. C'est normal que des pays émergents soient aujourd'hui les réservoirs de migration. La question est de savoir comment vous allez faire gérer cela dans un monde qui est désormais beaucoup plus clos qu'il ne l'était à la fin du 19e siècle. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est soit la frontière ouverte ou la frontière fermée, c'est cet espace de négociation. Mais si vous introduisez des mots comme hospitalité, ça veut dire que la position de quelqu'un qui serait plus restrictif pour les entrées serait forcément la xénophobie, voire le racisme. Je pense que c'est un mauvais débat.
Non, elle serait peut-être simplement inhospitalière.
Oui, ce qui est très négatif, mais je ne pense pas que si aujourd'hui je décide que l'accès à ma maison est nécessairement filtré, nécessairement limité, que c'est la preuve de mon inhospitalité. Je pense que c'est plutôt la preuve de mon réalisme, mais aussi la reconnaissance du fait que quelqu'un qui vient, il n'y a pas un homme universel qui vienne. Ce sont des gens qui ont des qualités. Donc, ils ont été socialisés dans un environnement où, par exemple, la question de l'autorité, la question de la religion, est-ce qu'elle est séparée de la politique? Est-ce qu'il y a un champ autonome de la politique? Toutes ces questions, l'attitude envers les femmes, tout cela, c'est des transferts de valeurs et de normes. Et il faut savoir dans quelle mesure une société peut... ça va dans les deux sens. C'est aussi vrai pour les migrants qui reviennent en Afrique, qui changent les valeurs et les normes en Afrique. Mais les gens qui arrivent en Europe changent aussi les valeurs et les normes en Europe. Et il faut se poser la question dans quelle mesure c'est possible, ce qu'on peut réellement absorber. Et il ne faut pas avoir peur de faire de la politique. Il ne faut pas prendre une position qui soit quasiment comme un interrupteur. C'est on ou c'est off.
Et ce que l'on peut absorber, ça se mesure comment, Stephen Smith?
À chaque moment, selon les conditions, notamment économiques. Par exemple, l'Allemagne est aujourd'hui en mesure, à cause du plein emploi, de mieux accueillir des gens que la France ou d'autres pays, hier le Portugal. Donc ça dépend beaucoup des circonstances. Et ce n'est pas une question de racisme, parce que quand vous regardez un mot comme la préférence indigène, ce qui est vraiment profondément choquant, vous voyez les Suisses pratiquent ça à l'égard des Français. Donc il n'y a pas de racisme qui interfère. La question est, dans la mondialisation, est-ce que les Suisses sont prêts à subir la compétition, la concurrence internationale? La réponse est non, ils ne le sont pas. Ils se replient et ils veulent avoir les avantages d'une protection. On ne peut pas gagner sur les deux tableaux. On ne peut pas participer à la mondialisation et perdre sa prime de nationalité. Or, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. Trump, il est là pour dire aux Américains que c'est à nouveau comme dans le temps. Vous êtes né américain et de ce fait, quelles que soient vos qualités de compétition, vous allez avoir votre maison, votre voiture, un mode de vie qui vous est garanti du seul fait d'être né américain. Mais cette prime impériale, elle n'existe plus. Aujourd'hui, l'Américain, il est concurrencés par les Indiens, les Turcs, ils sont parfois plus performants. Donc, ils subissent les contreparties. Mais à l'intérieur de chaque pays où les inégalités croissent, et ça croît, c'est aussi le cas en Afrique, on l'oublie souvent, la disparité sociale en Afrique est très, très grande. Il y a une pellicule de gens qui sont très, très riches et il y a une grande masse de pauvres. Donc, à l'intérieur de ces inégalités, il y a très peu de solidarité. Si on avait été plus solidaire avec les perdants de la mondialisation, politiquement, je pense qu'on ne serait pas dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui.
Politiquement, pas économiquement. Et là, on en revient à cette question des aides dont vous disiez à l'instant qu'elle n'était pas l'alpha et l'oméga non plus de la résolution de la situation.
Loin de là.
D'accord, donc le critère pour absorber est économique avant tout, mais
non, il est aussi culturel.
Il est aussi culturel. Parce que vous avez donné l'exemple de l'Allemagne.
Prenez l'homophobie. L'Afrique, pour des raisons qu'on peut expliquer, qui sont parfois liées au colonialisme, est un continent globalement homophobe jusqu'à la peine de mort. Et donc, si vous faites venir beaucoup d'Africains en Europe, fatalement, les idées qu'on se fait aujourd'hui de l'ouverture vers l'homosexualité vont être mises à mal. Donc, il faut penser les choses jusqu'au bout. L'attitude envers les femmes, l'attitude vers l'autorité politique, l'éducation des enfants, c'est très différent. Vous n'avez pas un être humain universel qui vient de n'importe où et se place n'importe où et s'intègre automatiquement. Donc, il faut parler de ce travail qui est un travail qui est fait par les migrants, mais c'est aussi un travail pour la société qui l'accueille. Et donc, il faut se mettre d'accord sur la répartition de ce travail.
Stephen Smith, pour terminer, des mesures évoquées à Bruxelles la semaine dernière, des plateformes de désembarquement des migrants hors de l'Union européenne, renforcer les frontières extérieures, instaurer un système volontaire de centres dits contrôlés en Europe, éviter les déplacements au sein de l'Union européenne des migrants en fonction de là où ils sont arrivés et là où ils souhaiteraient se rendre. Et puis, à cette question éternelle de la répartition et des clés de la Convention de Dublin, ça, pour vous, ce sont les bonnes propositions, mesures à envisager aujourd'hui. Ça dénote une vision suffisamment long-termiste. On sort un peu de cette vision à court terme que l'Europe applique
jusqu'ici. Non, pas du tout, parce que c'est une façon d'externaliser le problème. Et d'ailleurs, je ne vois pas encore un seul pays, ni le Maroc, qui d'habitude coopère beaucoup avec l'Europe, ni l'Albanie. Personne ne veut de ces camps-là. Et c'est irresponsable, puisqu'on voudrait que d'autres pays à notre place gèrent en quelque sorte les réfugiés ou les migrants et que fassent le tri et qu'ils n'arrivent jamais sur notre sol. Cela, plus l'idée de donner une sorte de rente migratoire aux États qui veuillent bien nous épargner la venue de ces personnes et le travail de faire le tri, puisqu'il faut bien le faire en fonction des catégories. Est-ce que ce sont des demandeurs d'asile? Est-ce que c'est des migrants? Et combien vont entrer en Europe? Ce travail-là ne peut pas être externalisé et il est irresponsable de donner à l'élite politique d'un autre pays des revenus, des subventions, une rente migratoire pour que par la suite elle fasse le travail qu'on ne veut pas faire soi-même. Si on parle de valeurs, il faut bien mettre en pratique ou en conciliation nos valeurs avec nos pratiques, on doit le faire nous-mêmes.
Merci beaucoup Stephen Smith, prix bien du livre de géopolitique pour La ruée vers l'or, La jeune Afrique en route pour le vieux continent, votre ouvrage qui est paru chez Grasset. Merci à vous.